La Royal Navy humiliée, la Royal Navy dans un sale état, la Royal Navy britannique donc qui n'a pas su, qui n'a pas pu défendre sa base à Chypre et ses intérêts dans le monde par voie de conséquence. C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui dans ce nouveau format qui est un format plus news sur des actualités défense et géopolitique du moment. Je voulais faire ce test aujourd'hui, enfin ce premier, cette première vidéo avec ce sujet très intéressant, très inquiétant aussi côté britannique, mais nous côté français, on a un petit sourire en coin quand on pense à ça. Je pense que c'est le sujet parfait, c'était le sujet parfait pour démarrer ça. L'humiliation de la Royal Navy après l'attaque de sa base à Chypre par un drone iranien ou en tout cas du Hezbollah. Tout ça s'intègre dans la crise et dans la guerre qu'il y a actuellement entre l'Iran et les États-Unis et Israël. La Royal Navy n'a pas su, n'a pas pu, par manque de moyens, réagir. Ça a provoqué une consternation, le mot consternation a été évoqué par The Telegraph, une consternation de l'opinion publique sur l'état catastrophique, cataclysmique de la Royal Navy qui pourtant régnait sur les océans du monde entier il y a encore quelques décennies, plus d'un siècle. Bref, souvenez-vous de la Royal Navy sous Napoléon. Je pense que l'amiral Nelson se retournerait dans sa tombe s'il voyait ce qui est arrivé. Ah, voilà, les imprévus du différé. Une petite notif. Mais comme c'est un format cool, c'est pas grave, je ne vais pas couper. Voilà, l'humiliation de la Royal Navy, on va en parler en détail. C'est maintenant. Je vais déjà commencer par vous faire une petite chronologie des choses rapide. Hein. J'ai mes notes sous les yeux. Je ne vais pas vous regarder en permanence comme dans mes vidéos. C'est plus une petite revue de presse. Et pour vous résumer l'essentiel de l'actu. Donc fin février, on s'en rappelle, c'est là le déclenchement de la grande... Pour l'instant, on ne peut pas l'appeler vraiment guerre, je ne sais pas, mais de la crise régionale, la crise entre les États-Unis, Israël et l'Iran, puisque le 28 février, les États-Unis et Israël ont frappé conjointement l'Iran. Et ça fait suite à plusieurs semaines de tensions. Et l'Iran, vous le savez, a riposté par des attaques de missiles et de drones contre des cibles situées dans les pays du Golfe, c'est-à-dire les bases américaines. Une base française aussi à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, qui a été touchée accidentellement, paraît-il. Mais voilà, l'Iran a riposté. Et il a fallu, de la part des États-Unis, qui sont les premiers impliqués dans cette guerre avec Israël, mais surtout, il a fallu, pour la France, réagir, et pour les pays européens, savoir comment se positionner. Et pour la Royal Navy, parce que... pour la Royal Navy. Pour l'Angleterre, d'une manière générale, pour le Royaume-Uni, parce que si une base française a été attaquée, celle d'Abu Dhabi, c'est un fait, mais une base britannique a également été attaquée, c'est le 2 mars. Un drone de fabrication iranienne a frappé la base de la Royal Air Force à Akrotiri, à Chypre, qui est un territoire britannique souverain. Sachez qu'à Chypre, les Britanniques ont deux bases, deux territoires militaires souverains, et ils en ont un autre pour ce qui est de la Méditerranée, ils en ont un autre, bien sûr, une autre base à Gibraltar. Ils tiennent encore le détroit de Gibraltar. Donc cette base a été frappée. Alors les dégâts ont été limités, seulement un hangar touché, mais le sol britannique a été frappé. Et face à cela, la réaction ou l'absence de réaction par faute de moyens du Royaume-Uni a frappé les esprits. Le 3 mars, Londres a réagi, donc le lendemain, en annonçant l'envoi d'un destroyer, le HMS Dragon. Sauf que ce destroyer en question n'était pas disponible à l'instant T. Et c'est ça qui a créé la sidération, c'est que le seul destroyer potentiellement disponible ne l'est pas. Alors que la Grande-Bretagne dispose de 6 destroyers. Hein. Il y en a 5 qui sont en maintenance, en réparation ou je sais pas quoi. Il était pareil, mais destiné à une autre mission. Il n'était pas encore prêt, il était en cale sèche. Mais l'un des problèmes principaux de cette situation, c'est pas que, c'est déjà qu'il n'y a aucun navire de prêt, mais surtout, ça a mis en évidence quelque chose de terrible. Il n'y avait aucune présence britannique en Méditerranée, aucun navire pré-déployé en Méditerranée, comme le fait la France, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Il n'y avait aucune présence navale britannique en Méditerranée. Et ça, c'est terrible. Donc, il a fallu compter sur le HMS Dragon. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il n'était pas disponible. Il était au port et en cale sèche à Portsmouth. Il a donc fallu se dépêcher et le mettre à l'eau en 6 jours. Et ensuite, compter le temps d'arriver sur place. Donc, au final, la Royal Navy aura mis quasiment 2 semaines pour aller défendre son territoire et ses intérêts vitaux à Chypre. Et finalement, on s'est rendu compte en parallèle de ça que c'est bien la France et la marine française qui a su réagir le plus rapidement. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi un tel désastre de la part de la Royal Navy et pourquoi la France a été aussi réactive. Le HMS Dragon, qui est donc un destroyer avec des moyens anti-aériens, est donc parti le 10 mars. C'était bien trop tard. La France était déjà sur place au large de Chypre. Je vais y revenir. Ça a déclenché un tollé et, comme je l'ai dit, une consternation, polémique majeure au Royaume-Uni. Des anciens chefs militaires qui prennent la parole, qui parlent d'une situation inadmissible, embarrassante. Beaucoup, beaucoup de critiques sur la gestion du budget de la défense. Depuis 2010, hein, le sous-financement et la réduction de la flotte, ça c'est terrible et je vais y revenir dessus plus tard. Et des interrogations sur la capacité britannique à réagir rapidement. Là, on a vu que ce n'était pas le cas, c'est ce qui a créé cette consternation. Je vais dire un mot maintenant sur le déploiement naval français, qui la France, pour le coup, a été très réactive, puisque aussitôt la crise commençait, le porte-avions Charles de Gaulle, qui était en mer du Nord pour un exercice de l'OTAN, le porte-avions Charles de Gaulle et son escorte, qui a été renforcée par des navires espagnols, néerlandais, et je ne sais plus quel était le troisième, mais il n'empêche que le porte-avions Charles de Gaulle et son escorte a fait route immédiatement vers la Méditerranée orientale, a passé le détroit de Gibraltar et flotte désormais au large de Chypre. Dans la région, il n'a donc pas fallu attendre aussi longtemps pour une réaction française. Et au-delà du porte-avions Charles de Gaulle, eh bien, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 8 frégates, pardon, de 8 frégates en Méditerranée orientale, 2 porte-hélicoptères, dont le Tonnerre, le deuxième, j'ai pas réussi à trouver lequel c'était. Et puis s'ajoute à cela 2 autres frégates situées proche de la mer Rouge et du détroit d'Ormuz pour sécuriser le trafic maritime. On a donc plus d'une douzaine de navires français qui sont déjà dans la région, qui étaient déjà opérationnels, qu'il aura juste fallu transférer vers un autre théâtre maritime, alors que côté britannique, eh bien, on était en cale sèche. On n'a pas su répondre. Il n'y avait rien à déployer à l'instant T, ce qui a causé la tragédie. Je vais vous extraire, enfin vous lire, vous extraire les informations principales d'un article de The Guardian que j'ai fait traduire évidemment suite à la consternation. Pourquoi, s'interroge le Guardian, pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour envoyer un destroyer britannique à Chypre? Donc c'est le HMS Dragon que vous voyez ici. Alors déjà, l'article commence bien par la fière histoire navale de la Grande-Bretagne a été déshonorée. Je vous dis déshonorée, consternation, c'est des mots qui reviennent beaucoup. Il était en cale sèche donc pour des réparations programmées avant son déploiement dans le cadre d'une mission de l'OTAN. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a un temps pensé au HMS Duncan qui lui est resté au Royaume-Uni pour la défense intérieure pour être déployé. Mais Matthew Elslip, maître de conférence en histoire navale à l'université de Portsmouth, nous dit: le Duncan venait de terminer des exercices d'entraînement et avait donc probablement besoin de maintenance. Donc même un navire disponible est au bout du rouleau. Il ajoute: le Royaume-Uni ne dispose d'aucune défense aérienne autre que la Royal Air Force et quelques missiles à courte portée. Ça, c'est une autre question critique. Il y a beaucoup de voyants dans le rouge, militairement parlant, au Royaume-Uni. La marine, on est en train d'en parler. Ça aussi, les défenses antiaériennes. Sachez, pour l'anecdote, que, nous rappelle The Guardian, l'année dernière, lors de la venue de plusieurs dignitaires à Londres, il fallait sécuriser le ciel. Et ben, il a fallu prendre le HMS Diamond et le placer sur la Tamise, donc en plein milieu de Londres ou aux alentours, pour assurer la défense antiaérienne. C'est absolument catastrophique. C'est la honte, l'une des nombreuses hontes de l'armée britannique dans sa globalité actuellement. Je ne suis pas en train de me réjouir, j'ai mon petit sourire napoléonien en coin, mais c'est quand même assez catastrophique. Alors pourquoi le HMS Dragon, qui va donc être envoyé au large de Chypre, enfin qui est arrivé au large de Chypre après énormément de retard, quasiment 2 semaines. Alors il fallait le remettre à l'eau, premièrement, parce qu'il était en cale sèche. Ça s'appelle un désamarrage ou un renflouement, et ça prend déjà plusieurs heures. Ensuite, il doit être remorqué hors de la cale par des remorqueurs. Il faut tenir compte des marées. Tout ça peut durer une journée. Ensuite, il faut aller au terminal de chargement pour embarquer les munitions. Sachant qu'il devait participer à une autre mission d'un tout autre type, il a dû être modifié. Ça a nécessité des travaux de soudure. Le brouillard, malédiction absolue, n'a rien arrangé. Ensuite, il faut embarquer des vivres. Tout ça, ça a pris 5 jours. Là, il est parti donc le 10 mars. On est le 16 mars, il est arrivé. Il aura fallu quasiment 2 semaines. Il y a 200 personnes à bord. Et sachez aussi qu'il a fallu rappeler l'équipage, parce que l'équipage était soit en permission, soit en entraînement. Il aura fallu rappeler tout le monde en catastrophe. Et vous ajoutez à cela, bien sûr, les formalités administratives. Et là, on va en venir aux raisons de cette déroute, qui sont avant tout des raisons budgétaires. C'est là où je vais enfoncer le clou. Je commence par Eslip, donc le maître de conférence en histoire navale, qui soulignait que la situation difficile dans laquelle se trouvait la Royal Navy était due majoritairement, essentiellement, aux importantes coupes budgétaires. Ça avait fait plonger la marine. Et il a ajouté « Nous n'avons pas les ressources nécessaires actuellement ». Terrible, terrible constat. Je vous donne d'autres informations à ce sujet, parce que beaucoup... Je vous l'ai dit, beaucoup ont pris la parole. L'un des anciens chefs du navire HMS Dragon, l'amiral Alan West, a déclaré « Le peu de navires que nous avons est ridicule ». Et il ajoute « Nous avons subi des coupes de défense pendant des années et des années, et maintenant nous en payons le prix ». Sachez que la Royal Navy a aussi des difficultés à recruter, à former ses marins, à les garder, qu'elle manque de bassins nécessaires à l'entretien de ses navires, qu'il a fallu privatiser. Ça, c'est une source militaire française qui nous dit ça. Cette source française ajoute que les Britanniques ont trop tiré sur la corde. Ils payent des années de manque d'investissement. Vraiment, ils ont délaissé leur marine, ce qui était leur principale force, leur principal atout. Là, on a Elio Calgagno de l'Institut d'affaires internationales italien qui nous dit que la Royal Navy n'a pas été capable de mettre de nouveaux bâtiments de combat de surface en service depuis plus de 5 ans, et ça, c'est beaucoup. C'est l'un des autres problèmes, c'est qu'il n'y a même pas de renouvellement, il n'y a même pas de volonté de redresser la barre, pour le coup. Selon la source française, si la menace continue à évoluer comme depuis une dizaine d'années, on se rend bien compte qu'on va manquer de bateaux. Ça vaut pour la Royal Navy qui est dans un état catastrophique, mais ça vaut aussi pour nous. Parce que certes, on a une marine en meilleur état, un peu mieux gérée, qui en plus a moins de budget que la marine britannique, hein, c'est ça qui est terrible. Mais ça ne reste pas suffisant si on devait s'orienter vers des conflits un peu partout dans le monde, la nécessité de défendre nos intérêts économiques et vitaux sur plusieurs points, ou une guerre de haute intensité. Et là, il ne faut pas se mentir, on n'est carrément pas prêt, il y a déjà une crise des missiles qui est en train de se mettre en place. Pour finir sur le HMS Dragon, ce navire lance-missile, donc qui est là pour être surtout anti-aérien, contre les drones et les missiles, intervient plus d'une semaine après que le drone iranien ait frappé Chypre. Donc ça, on en avait déjà parlé. Je passe à un autre article pour enfoncer le clou, encore une fois. Un porte-avions, parce que sachez que la Royal Navy dispose de deux porte-avions, que j'appelle plutôt porte-aéronefs, mais allez, c'est des porte-avions parce qu'il y a des avions dessus, mais c'est le HMS Prince de Galles et le HMS Queen Elizabeth. Alors le Queen Elizabeth, il est en maintenance, et le Prince de Galles, il n'est pas encore prêt. Non seulement il n'est pas encore prêt, mais si le prince de Galles devait être mis à l'eau, eh ben il aurait besoin d'une escorte étrangère, parce qu'il n'y a pas de navire disponible pour l'escorter. Voilà ce qu'on lit dans la dépêche, un porte-avions pourrait nécessiter une escorte européenne et américaine pour rejoindre la base britannique de Chypre. Donc là, c'est la stupéfaction de la population britannique, je vous en ai parlé tout à l'heure. Seul l'un des deux porte-avions est disponible, c'est le HMS Prince de Galles, mais il était encore en période de maintenance, donc il peut être mis à l'eau bientôt, en catastrophe, mais il est en phase de maintenance. Et c'est là où j'enfonce le clou, le dernier clou au cercueil de la Royal Navy. La Royal Navy est en quête, nous dit Zone Militaire, hein, OPEX 360, qui est un très bon site, je vous le recommande, la Royal Navy est en quête de navires pour escorter son porte-avions. Donc, suite aux conséquences des mauvais choix dictés par les gouvernements depuis les années 2000, avec des capacités amoindries, des coupes budgétaires, je vous l'ai dit, alors la Royal Navy dispose bien de deux porte-avions, hein, bon, c'est des porte-avions non nucléaires et sans catapultes, mais allez, deux porte-avions, mais n'a pas assez de navires pour leur protection. Sachez, encore un exemple, comme tout à l'heure, je vous ai cité l'exemple d'un destroyer déployé dans la Tamise pour gérer la défense aérienne au-dessus de Londres. Eh bien, déjà en 2019, ça a alimenté les polémiques, puisque avec une flotte réduite, hein, 13 frégates en 2019 de type 23 et seulement 6 destroyers de type 45, je vais revenir sur la diminution drastique de la Royal Navy, eh bien, l'anecdote qui vient justement enfoncer encore ce clou, c'est que la Royal Navy s'était fait arraisonner un navire pétrolier qui battait pavillon britannique. Et c'était dans le détroit d'Ormuz. Déjà, c'était par le corps des gardiens de la révolution iranienne. Et la Royal Navy n'avait pas été en mesure d'assurer la sécurité de ce navire ou de répliquer parce qu'elle n'avait qu'une seule frégate dans la zone. Déjà à l'époque, en 2019, aujourd'hui en 2026. Elle en a zéro. C'est encore plus inquiétant. Et là où ça devient très croustillant pour nous, mais dramatique pour la Royal Navy, The Telegraph nous dit: la plupart des principaux navires de guerre de la Royal Navy étant indisponibles, la protection du HMS Prince de Galles devrait probablement être assurée par des alliés tels que la France, les États-Unis et d'autres pays européens. Tels que la France. Vous vous rendez compte, la Marine nationale, la Marine française, éternelle rivale de la Royal Navy depuis des siècles, qui en viendrait à escorter de bonne grâce un porte-avions britannique. Si le HMS Prince de Galles était déployé en Méditerranée orientale, alors il pourrait éventuellement compter sur des moyens français déjà présents. Et c'est les Français, outre les Américains, bien sûr, c'est les Français les plus présents dans la région, à savoir la frégate Languedoc et le groupe aéronaval du Charles de Gaulle, bien sûr. Selon Lord West, pardon, je crois que c'est Alan son prénom d'ailleurs, je l'ai déjà cité tout à l'heure, l'ancien chef d'état-major de la Royal Navy, je cite, pour enfoncer le clou une dernière fois, le Royaume-Uni doit s'inquiéter de la taille de sa marine. Je vais en parler juste après pour conclure. Le peu de navires que nous avons, c'est ridicule. Nous subissons des coupes budgétaires dans la défense pendant des années, et maintenant, nous en payons les conséquences. Nous n'avons pas construit de navires assez rapidement, donc inévitablement, nous avons des lacunes dans notre flotte. Vous voyez à quel point c'est terrible, à quel point la situation est dramatique pour la Royal Navy, autrefois resplendissante et aujourd'hui rouillée, vieillissante et pas opérationnelle. Pour conclure, qu'est-ce qui fait que la France a pu réagir si rapidement et la Royal Navy pas du tout? Bah déjà, c'est que la France a une autre philosophie. La France avait des forces déjà prêtes, puisque la Marine nationale fonctionne régulièrement comme ça, c'est-à-dire avec un groupe aéronaval ou un dispositif équivalent qui est prédéployé partout dans le monde, puisque la Marine française, je le rappelle, est une marine océanique mondiale. Hein. On a la deuxième zone économique exclusive du monde. On est présent dans l'océan Indien, dans le Pacifique, en Atlantique. On est présent partout. Donc, on a des navires qui sont prédéployés un peu partout. Là, c'est tombé. C'était le parfait timing. Donc là, comme je vous l'ai dit, le Charles de Gaulle, lui, il était en mer du Nord. Il a suffi de le rediriger en Méditerranée. Ça a quand même pris quelques jours. Mais sur place, il y avait déjà des frégates françaises qui participaient aux opérations de sécurité maritime en mer Rouge et en Méditerranée orientale. Il a suffi juste, comme je vous l'ai dit, de repositionner des navires qui étaient déjà en mer au final. Pas besoin de sortir un navire de sa cale sèche ou de sa maintenance. Et de l'autre côté, bah, la Royal Navy n'avait pas tout cela. Elle a un problème structurel vraiment dans sa marine. Sur les 6 destroyers dont elle dispose, seuls 2 ou 3 sont généralement opérationnels. Et là, en l'occurrence, c'était 0, enfin 0 et demi, puisqu'il y a eu le Dragon qui est parti plus tard, puisque c'était le seul navire adapté à la défense anti-aérienne. Il lui a fallu presque 2 semaines, encore une fois, pour y arriver. Voilà, la France a une posture d'intervention rapide qui est héritée de ses OPEX, de ses opérations extérieures, et du maintien, ce qu'on appelle la permanence à la mer, du maintien tout le temps d'un groupe aéronaval ou de plusieurs groupes aéronavals partout dans le monde. Voilà, 2 philosophies. On se rend compte que la philosophie française porte plus ses fruits, parce que la France n'a qu'une base à Abu Dhabi et n'a pas eu besoin de cette base, puisqu'elle avait déjà une base flottante qui est le porte-avions, d'où l'importance, je le rappelle, des porte-avions non qui ne sont pas obsolètes, mais ça c'est un autre débat. J'en ferai une vidéo dédiée d'ailleurs sur l'obsolescence supposée des porte-avions et sur l'obsolescence des chars aussi, hein, tel que j'ai pu le voir sur ma vidéo sur le Charles Leclerc. Aujourd'hui, le Royaume-Uni ne dispose plus que de 7 frégates en service, et je terminerai là-dessus sur comment dire, sur l'effondrement mais vraiment, c'est même pas un peu, c'est même pas progressif. Il y a eu un vrai effondrement. À la fin de la guerre froide, le Royaume-Uni disposait de 34 frégates, 12 destroyers, 5 porte-avions et 4 sous-marins. Aujourd'hui, la flotte a diminué beaucoup. Elle a diminué même de 50% entre aujourd'hui et 2010. C'est-à-dire qu'en 16 ans, la flotte britannique a diminué de 50%. Elle est passée de 24 à 13 frégates dans un premier temps, et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 6. C'est absolument dramatique. Et sachant que cette flotte, si peu nombreuse soit-elle, est toujours en maintenance, a toujours des problèmes de maintenance et très peu de disponibilité. Donc voilà. C'est très critique au niveau du Royaume-Uni. Sa marine est dans un état très alarmant. Ses défenses antiaériennes sont à questionner lourdement. Ses défenses tout court et son armée de terre, pour ne rien arranger, 70 000 soldats seulement. Le Royaume-Uni, c'est vraiment le pays précurseur, le précurseur de la crise majeure qui va nous traverser aussi si on ne réagit pas. Voilà, je pense que j'en ai dit assez sur ce sujet et que j'ai abordé les points essentiels. Comme je vous l'ai dit, petit sourire napoléonien en coin, mais c'est dramatique et ça pourrait nous arriver aussi. Donc, je ne suis pas en train de sauter de joie, je suis en train de dire qu'il faut se réveiller, que ce soit côté britannique et côté français, il faut se réveiller aussi parce que là, on a été réactif, mais on ne peut pas tenir longtemps comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'aimerais vous faire ce format 2 ou 3 fois par semaine, hein, idéalement. Partir sur un format news comme ça, tout en gardant mes vidéos plus écrites, plus construites. Évidemment, je ne vais pas les abandonner, qui sortent le dimanche. Peut-être qu'il y en aura plus que 2 par mois au lieu d'une par semaine parce que la cadence est dure à tenir. Mais ce format news, je voulais le tester. Ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de parler d'un truc d'actualité. Bon, là, ça date quand même de quelques jours, mais c'était pour la première. Mais si je veux rester dans l'actualité défense et géopolitique, je ne peux pas me permettre de le fixer sur mes vidéos plus structurées, parce que ça prend du temps. Et une fois le travail effectué sur la vidéo, le travail d'écriture, de tournage, etc., de montage, eh ben, on est déjà passé à autre chose. Donc ce format news, je trouve, est très adapté en complément sur cette chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ça va m'encourager. Lâchez des likes, lâchez des commentaires pour booster la vidéo, pour booster la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir et ça me soutiendrait énormément. Et comme toujours, je lis vos commentaires, donc lâchez-vous. Allez, merci et je vous dis à très vite, encore plus vite que d'habitude.